Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, on commence tout de suite par le sommaire de cette émission. On va parler de Enjoy qui vient de sortir sur la plateforme France.tv rubrique slash avec une série événement qui s'annonce. Le réalisateur Lionel Metta, les créateurs Benoît Marquisio et Catel Guillou, ainsi que les trois héros Jean-Désiré Aunier, Camille Moutawakil et Baptiste Carion-Weiss nous rejoignent dans une poignée de secondes. On parlera également du téléfilm À l'épreuve, téléfilm meilleur unitaire au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Les deux autrices, Noémie de l'apparent Fanny Chenel, le réalisateur Hakim Isker, l'héroïne Frankie Wallach et Anne Suarez seront nos invités. Et puis en fin d'émission, nous parlerons du film Vivre, Mourir, Renaître qui sortira en salle mercredi. À cette occasion, le réalisateur Gaël Morel viendra accompagné de Lou Lampros, Théo Christine et Victor Belmondo. Tous ces acteurs seront là avec nous. Et puis on va parler de Insoupçonnable sur l'affaire du Grélé qui sera diffusé demain soir, un docu-fiction événement sur France 2. Son réalisateur Elie Wajman et Daniel Zaguri, psychiatre, viendra nous parler de cette docu-fiction, de cette série événement qui s'annonce. Et puis en exclu podcast aujourd'hui, nous recevrons également Brigitte Aubry à l'occasion de la diffusion de la suite de Brocéliande. Ce soir, elle y joue la maman de Laura. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui hein, dans Chut, on écoute la télé. On démarre tout de suite avec notre spécial Enjoy.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur plateforme est consacré à Enjoy qui vient de débarquer sur slash la plateforme France.tv. On a aujourd'hui le réalisateur qui est avec nous, Lionel Metta. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, les créateurs de cette géniale série, Benoît Marquisio et Catel Guillou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, à l'heure de l'ubérisation, c'est une série qui va nous emmener à travers le portrait de trois personnes. On va avoir un jeune livreur, Uber on peut dire, mais pas forcément, hein, puisque ça va être une autre marque. Mais on peut le comparer assez facilement, puisque c'est Enjoy. On va avoir également une jeune stagiaire dans une chaîne d'info télé et un jeune avocat. On va suivre un peu le parcours groupé de ces trois personnes. Et je crois que le tout est tiré d'un livre, Benoît Catel. Qui c'est qui veut nous parler un peu de ça déjà?
Oui, c'est un roman qui est sorti en 2021 que j'ai écrit. C'était mon premier roman. Et en fait, il devait sortir pendant le Covid. Enfin, il est sorti en mai 2020, mais le Covid a décalé la sortie. Mais les producteurs ont pu le lire entre-temps. Et ils m'ont contacté assez vite pour en faire une adaptation. Et après quelques rencontres, on a convenu de développer une série avec Catel, qui est co-scénariste sur le projet.
On est vraiment très dans l'air du temps, Catel, dans cette série. C'est ce que j'ai dit, ça mériterait même un prime sur France 2, France 5, mais c'est vrai que c'est vraiment une série qui est très dans l'air du temps, très actuelle.
Oui, c'est ça qui m'a séduit d'ailleurs dès l'origine quand j'ai lu le roman de Benoît, c'est que c'est une série ultra contemporaine, c'est une radiographie de la société actuelle. À l'époque d'ailleurs, quand je l'ai lu en 2021, on parlait beaucoup de la législation qui était en discussion autour des travailleurs, des livreurs en fait, et je me disais, y a peut-être quelque chose qui va évoluer assez vite et on va peut-être être en retard finalement quand la série va sortir. Et puis en fait, on s'est rendu compte que, on se rend compte que les progrès n'avancent pas, que en fait le monde du travail reste quand même une jungle. Et donc on a continué à écrire là-dessus en se renseignant sur l'évolution. Mais c'est vrai que ce qui me plaisait le plus, c'était ce côté extrêmement contemporain, extrêmement présent, quoi.
Lionel, on pourrait presque avoir l'impression que des fois les personnages sont caricaturales et en fait quand on se rend compte, c'est presque en dessous de la réalité.
Oui, complètement. Pendant l'écriture, Benoît et Catel qui regardaient un petit peu ce qui se jouait et comment étaient décryptées les informations, notamment à ce moment-là, se sont rendus compte que très souvent, les personnages qui étaient écrits étaient bien moins cruels, bien moins ignobles, si je peux dire, que les personnages réels, quoi. Il y a de ce côté-là, moi je trouve une super écriture de Benoît et Catel qui nous montre véritablement l'envers, pour ne pas dire l'enfer en fait, du décor télévisuel et du décor
d'ubérisation.
Ubérisation, quoi. Voilà.
Exactement, Bruno Salomon est délicieusement odieux. Vraiment joue un animateur de télé sans foi ni loi, prêt à tout pour le scoop, qui ne s'embarrasse pas de principes, de choses comme ça. Là encore, on est peut-être même encore en dessous de la réalité finalement.
Mais ce qui était justement assez formidable dans le choix de Bruno, qui a été une fulgurance, on le disait tout à l'heure, une fulgurance de Benoît, c'est justement cette capacité qu'il a, j'ai envie de dire presque cette bouille assez sympathique, voilà, à pouvoir s'emparer de propos ou de pensées aussi abjectes, quoi. Et je trouve que ça fonctionne véritablement, ça fonctionne à merveille, quoi.
Alors, on va planter un petit peu le décor. Benoît Catel en son. On va y suivre le personnage donc de Abel, qui est livreur, lui donc pour la plateforme Enjoy. C'est une application de livraison de repas à domicile. Alors évidemment, c'est un job précaire, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et on va y suivre en parallèle le dessin d'un avocat qui se fait tabasser devant des caméras de télé. Et puis évidemment, ça va amener le scoop idéal pour cet animateur de télé qui va un peu malmener sa stagiaire pour décrocher ce scoop à tout prix. Et c'est tout l'engrenage que va montrer un peu justement la série. Les trois comédiens principaux sont vraiment tous bien à leur place, mine de rien aussi. Le casting, comment il s'est déroulé?
On a fait appel à un directeur de casting qui s'appelle François Rivière, qui a plutôt l'habitude de dénicher des jeunes talents. Et en relation avec Lionel, ils ont reçu pas mal de gens pour Abel. J'ai le souvenir qu'on a reçu une bonne vingtaine de candidats. Et c'est vrai que Jean Désiré s'est assez vite imposé parce qu'il a une vraie grâce naturelle. Et comme c'est un personnage qui est beaucoup sur son vélo, qui est très sportif, il s'est vraiment imposé. Et en plus, son jeu était parfaitement convaincant. Donc ça a été assez vite. Et Camille Moutawaki, elle s'est imposée très naturellement dans le rôle de Yass. Ça a été une évidence, je crois, pour toi et même pour nous. Et après, Baptiste, pareil, il avait quelque chose d'assez fragile en lui qui nous intéressait beaucoup pour le rôle d'Igor, qui est quand même un personnage, quand on le présente, assez sûr de lui. Il a réussi à incarner cette fragilité et cette naïveté donc qu'il a un petit peu et qui va justifier en fait le fait qu'il va se laisser un petit peu emporter par le flux, quoi.
Catel, quand on écrit, quand on crée une série comme celle-ci, est-ce que là vous avez réussi à mettre un petit peu tout ce que vous souhaitiez ou est-ce qu'il a fallu arbitrer, faire des choix, justement quand il faut rentrer dans un format de 6 fois 35 minutes, ou est-ce que vous avez gardé aussi des petites choses peut-être pour une éventuelle saison 2?
Alors il a fallu faire des choix, surtout à la réécriture, parce qu'au départ on avait écrit des épisodes de 52 minutes qui ont été réduits petit à petit en fait pour aboutir à cette durée de 35 minutes. Donc il a fallu couper pas mal de scènes, faire quelques sacrifices, mais du coup effectivement ça nous a donné quelques idées pour à garder en réserve pour une éventuelle saison 2 qu'on serait ravis d'écrire si le public est au rendez-vous.
Ouais. Oui, parce que ça se termine quand même sur une note possible, hein. En tout cas c'est très très ouvert, donc on espère évidemment, on vous espère. On va découvrir donc ce 6 fois 35 minutes, on va écouter la bande-annonce, ça vient de débarquer, ça débarque en tout cas sur /France.tv. Une série à découvrir, vraiment un gros coup de cœur, hein, qu'on a pu voir au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle un petit peu avant tout le monde. Et puis juste après, on va revenir avec vos comédiens. Merci à tous les trois d'être passés nous voir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Enjoy. La même chose le mois prochain.
T'es un bon fils, non? Tu veux pas que ta mère se retrouve à la rue?
Bon, vas-y, je te laisse. Force.
Bon, ride.
Alors, vu que t'as pas de papier, t'es obligé de passer par ce mec pour pouvoir livrer, c'est ça? Et ensuite, vous partagez les gains?
Ouais, on fait 60-40.
Bonsoir.
Bon, bah, ça ne vous aura pas échappé, on a un invité ce soir.
Ça va, cher maître, pas trop stressé?
Non, non.
Mais c'est la première fois que je te vois, toi. T'es nouvelle?
Ouais, je suis en stage chez Jean.
Allez, on continue à parler de Enjoy. On reçoit nos trois comédiens principaux qui sont avec nous. On va commencer par les filles, hein, quand même. Camille Moutawakil qui est avec nous. Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui joue le rôle de cette stagiaire malmenée par Bruno Salomon. Justement, on a Jean-Désiré Aunier qui est avec nous également. Bonjour Jean-Désiré.
Bonjour.
Qui joue Abel, justement, notre livreur Enjoy. Et puis notre jeune avocat, qui est joué par Baptiste Carion-Weiss, qui est avec nous également. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Alors moi j'ai adoré cette série, je dois vous le dire, franchement, c'est une série très dans l'air du temps. Et je voulais qu'on présente un petit peu chacun vos rôles. Alors pour ta partie Jean-Désiré, alors toi t'es livreur pour Enjoy, travail précaire évidemment, tu joues le rôle d'Abel. Comment tu nous le présenterais toi, Abel, déjà?
Alors Abel c'est un garçon avec beaucoup d'ambition, qui est prêt à tout pour s'en sortir dans la société dans laquelle il évolue, et qui malheureusement... ou peut-être heureusement, je sais pas, va prendre d'autres chemins pour essayer de s'en sortir. Voilà.
C'est pas mal dit. C'est bien teasé. Camille, donc tu joues le rôle de cette stagiaire qui est donc stagiaire dans une chaîne de télé et qui va voir justement dans le personnage de cet avocat qui va nous décrire dans un instant, justement Baptiste, la possibilité d'un scoop. Elle va être mise sur ce scoop-là qu'il va falloir qu'elle décroche absolument à tout prix. C'est aussi ça que ça montre, c'est l'urgence de l'info, la multiplication des chaînes info qui a créé aussi un peu cette urgence-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais est-ce que des fois ce personnage que tu joues, Camille, n'est même pas en dessous de la réalité finalement?
Je pense que c'est pire en vrai. Je pense que quand on rentre dans le monde du travail, quand on est jeune, qu'on rentre dans une chaîne comme ça, qu'on est pigiste et qu'on veut faire ses marques, et qu'en fait on doit se plier au game d'un système où on doit, c'est toujours plus vite, toujours comme ça, on n'a pas le choix en fait. Là il faut trouver un scoop, il faut trouver cette vidéo. Il s'avère que dans cette chaîne d'info, il faut que ce soit toute une vidéo franco-française. On va pas spoiler la série, mais oui.
On va rien dire, mais elle tombe sur cette vidéo.
Elle tombe sur cette vidéo, elle plaît.
Elle va être embarquée dans un engrenage finalement.
Oui, voilà, c'est ça. Pour pas en dire plus.
Baptiste, ton rôle donc de jeune avocat qui va se faire prendre à partie, justement, qui va se faire tabasser, je crois qu'on peut le dire comme ça, mais devant les caméras, évidemment, les caméras étaient là.
Ouais. Ouais, alors tabasser c'est un mot fort, hein.
Oui,
il
oui,
prend
oui.
Une patate un peu comme ça là, dans un mouvement et tout. Oui, voilà, c'est un jeune avocat voilà qui se prend effectivement cette patate et cette vidéo est faite, c'est filmé et ça va se retrouver entre les mains de journalistes qui ont envie de buzzer là-dessus quoi, voilà,
regarde. Si t'as plus dans le rôle.
Moi ce que j'ai aimé dans le rôle c'est l'engagement du personnage, c'est sa manière de vouloir défendre les uns et les autres, de s'engager pour les autres. Je trouvais que c'était intéressant, je trouve que la série parle de ça et c'est un personnage plein d'ego mais qui tente de faire de son mieux et voilà, de faire ouais pour les gens, pour les autres.
Il y a plein de sujets abordés en fait dans cette série. Il y a évidemment la précarité, mais il y a aussi la course au scoop. Il y a l'ambition. Il y a vraiment plein de choses. Qu'est-ce qui t'a plu à toi, Camille, justement dans ce rôle? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui tout de suite? Est-ce qu'à un moment donné, quand t'as lu le scénario, tu t'es dit ah oui?
Moi c'est vraiment l'écriture en elle-même de toute la série que j'ai trouvé super bien construite.
T'avais lu le livre ou pas?
Je l'ai lu, oui, absolument. Je l'ai lu une fois que j'ai eu le rôle. Moi dans ce personnage-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement de trouver un personnage féminin comme ça, je trouve ça tellement rare parce qu'elle n'est pas du tout dans le regard des hommes, ça a pas de rapport avec les hommes. Et c'est vrai, je trouve que dans le cinéma, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins écrits où il n'y a pas de romance. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré son ambition, j'ai adoré ce péché d'orgueil qu'elle a aussi. Où elle se laisse complètement tomber là-dedans jusqu'à ce que ça parte beaucoup trop loin et que finalement elle fasse volte-face.
Presque un mimétisme avec Bruno Salomon, tellement il lui met la pression et du coup elle va mettre un peu la pression sur ce jeune avocat.
Oui, il y a cette espèce relation toxique, c'est un peu fort, mais en fait, elle rentre dans le monde du travail, elle est jeune, elle est influençable, et finalement, elle veut plaire aussi à ce patron, parce que elle veut monter les échelons, et il faut dire quand même qu'il est, entre guillemets, il est charmant, ça reste quelqu'un. Au début, elle imagine pas du tout le monstre que ça peut être. Et oui, c'est ça, elle tombe dedans, quoi. Elle se laisse complètement avoir.
Jean-Désiré, Abel, qu'est-ce qui t'a plu chez lui?
Moi, ce qui m'a plu, c'est le fait que Abel, c'est un personnage qui aurait pu être interprété par n'importe qui. Il est tout en nuance, ce personnage. Il n'est pas spécialement stéréotypé. Et je trouve que c'est un personnage noir, pour une fois, qui n'est pas montré seulement comme un délinquant, mais il est montré pour ce qu'il est, tout simplement, un individu à part entière qui essaie de s'en sortir dans la société dans laquelle il évolue. Et je trouve qu'au final, même tous les personnages de la série, que ce soit celui de Camille ou celui de Baptiste, c'est des personnages qui auraient pu être interprétés par n'importe qui. Bon, ce sont des acteurs extraordinaires, mais ce que je veux surtout dire, c'est que tous les personnages sont nuancés. Ils sont très bien écrits. Et ils sont complexes. Et voilà, c'est ça.
C'est cette complexité qu'on va découvrir au fil de ces 6 épisodes. En tout cas, dernière question, s'il y a saison 2, est-ce que vous êtes tous partants?
Ouais, carrément. Si c'est Benoît et Catel qui écrivent, oui. Ouais.
Yes.
Non, envie d'en savoir plus sur Abel après aussi, bien sûr.
Ouais, si c'est bien, en fait. Hein. on va lire avant de signer, quand même. Mais, mais dans l'idée, grave.
Si c'est dans la lignée de la saison 1, j'ai pas beaucoup de doutes parce que vous allez vraiment vous régaler en découvrant cette série sur / la plateforme France.tv avec cette toute nouvelle série. Ça s'appelle Enjoy. 6 fois 35 minutes, vous allez voir et vous allez passer certainement un bon moment avec nos héros, voilà, qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous. Merci également, Jean-Désiré, et merci Baptiste. Baptiste, on te retrouve bientôt. Tu reviendras nous parler de la série Dans l'ombre qui va bientôt débarquer également sur France 2.
Exactement. Je reviens. Je suis là. Je suis en route.
À très vite. Merci les amis.
Merci
beaucoup. À très vite.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio.
J'ai l'impression d'être deux, j'en aime une puis j'aime l'autre. Je suis enfermé entre deux, j'en perds souvent le contrôle. Dans les rues de Montreux, on sourit, on prend la pose. De Montmartre à Jussieu, je veux t'offrir une rose. Je t'aime ici, mais n'a peur. Je ne t'aime pas, et vice versa, et vice versa, et vice versa. D'être deux, j'en aime une puis j'aime l'autre. Folie, amour, c'est le feu, mais c'est toujours une de trop. Dans les bars, dans les lieux, mon cœur se métamorphose. Le désir dans les yeux, j'ai faim de toi puis de l'autre. Je t'aime ici, mais la peur, je ne t'aime pas, et vice versa, et vice versa, et vice versa. Je passe du temps à penser, mes mains qui tremblent sans tromper. Je me lasse d'être aimé. Je t'aime ici, mais la peur, je ne t'aime pas, et vice versa, et vice versa, et vice versa.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Insoupçonnable qui va être diffusé, ce docu-fiction qui débarquera demain sur France 2, demain mardi, avec 4 épisodes dont les 2 premiers sont diffusés demain soir. À cette occasion, on reçoit le réalisateur Eddie Vajman qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Et on a également Daniel Zaguri qui est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bonjour Daniel, merci d'être avec nous tous les deux. On va découvrir en tout cas toutes les ficelles qui ont été tirées pendant 35 ans pour découvrir qui était le Grêlé, qui était un tueur en série qui a sévi dans les années 80-90. Ce qui est assez surprenant, c'est que pendant plus de 30 années, personne n'a réussi à mettre la main dessus. C'est assez dingue cette histoire. Élie, qu'est-ce qui vous a décidé en tout cas à vouloir en faire une série documentaire?
Ce qui m'a décidé à en faire une série de documentaires, c'est deux choses importantes pour moi. C'est d'une part le clivage, ce personnage qui était et l'un et l'autre, et tueur en série et membre des forces de l'ordre. Et ça, ce que ça racontait sur l'humanité me paraissait absolument incroyable et intéressant de s'y pencher. Et après, c'est ce tueur a sévi à Paris, et que ça permettait pour moi, metteur en scène, de faire un portrait hanté de Paris fin 80, et que j'allais pouvoir me plonger dans cette ambiance et dans cette ville qui était sous la coupe du nombre, qui était celle de François Vérove.
Et c'est assez dingue ce qu'on suit comme histoire, parce qu'en fait, Daniel, vous remontez un peu le fil des choses. Vous, votre titre, vous êtes...
Moi, je suis psychiatre des hôpitaux honoraires, et j'ai fait beaucoup d'expertises criminelles dans ma vie professionnelle, et donc je me suis intéressé aux tueurs en série, et on m'a donné l'occasion d'étudier le Grêlé.
Dans cette étude, qu'est-ce qui est remonté, qu'est-ce qui vous a surpris au premier abord, Daniel ?
Alors, ce qui est absolument étonnant, notamment au regard de mon expérience, parce que j'en ai vu un certain nombre en France, j'en ai vu entre 12 et 15, c'est que je n'imaginais pas que ce soit possible d'avoir quelqu'un qui ait un parcours criminel aussi long, d'une part, et qui, d'autre part, soit aussi bien inséré dans la société. Tous ceux que j'ai vus étaient des marginaux ou des semi-marginaux, et je pensais que c'était un petit peu une mythologie hollywoodienne.
Une marque de fabrique un peu ?
Oui, ou quelque chose qu'on voyait aux États-Unis et pas en France, comme quoi il ne faut jamais fermer aucune porte et comment il faut être modeste devant les faits.
Alors devant les faits, oui, c'est clair, mais c'est vraiment, on va dire, une histoire qui est teintée de beaucoup de témoignages aussi qui sont très souvent poignants. Élie, vous avez rencontré combien de victimes ?
Là, j'ai pas le nombre exactement, mais on a rencontré pas mal de victimes, on va dire 6-7 victimes. Et puis, on a rencontré aussi des policiers, et certaines des victimes n'avaient jamais parlé. Et en fait, ce documentaire permettait aussi pour ces gens, ces femmes en particulier, d'attester que ça a vraiment eu lieu, car comme il a jamais été arrêté ni confondu, ce tueur, l'histoire aussi aurait pu disparaître entièrement. Si vous voulez. Donc en fait, nous, ce qu'on avait aussi à cœur de dire, non, ça a eu lieu, ça a existé.
Il sentait que ça se rapprochait certainement pour en venir à mettre fin à ses jours en 2021. Il a dû sentir quand même que ça sentait un peu le roussi. Et c'est là qu'il a laissé cette lettre où il s'est dénoncé finalement. Et aujourd'hui, peut-être que ça n'aurait même pas été encore résolu, quoi, s'il n'avait pas fait ça.
Ah bah c'est pas fait ça, non. Alors lui, il a pas que senti que ça allait se rapprocher, c'est que concrètement la police, ça dit, avait décidé d'aller voir les membres des forces de l'ordre fin 80 à Paris, et que parmi les nombreuses personnes qui ont été appelées, lui était appelé pour qu'il laisse son ADN dans un commissariat, et à ce moment-là, il a su qu'il allait être saisi, puisque l'ADN, il avait suivi l'évolution technologique de la police scientifique. Donc c'est très précis. Il aurait eu vu encore qu'il y avait encore une possibilité d'échapper au regard, il aurait continué en tout cas à se cacher. Là, c'était un fait. Et la lettre à la fin où il dit qu'il a été trouvé, enfin où il révèle son identité, il dit qu'il a tué, mais il reste quand même assez vague. C'est quand même l'ADN, la technologie de l'ADN qui va vraiment le confondre définitivement.
Il explique d'ailleurs dans sa lettre, et vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, Daniel, pourquoi qu'en 97 il aurait justement que ses pulsions se seraient soignées en quelque sorte. Est-ce que aujourd'hui des pulsions comme ça peut vraiment s'arrêter, puisque d'après ce qu'il dit dans sa lettre, après 97 il a plus commis quoi que ce soit?
Dans son cas, c'est probablement vrai. Et comment on peut le comprendre ? On peut le comprendre par le fait qu'il a traversé à ce moment-là une grande crise, qu'il a été contraint par sa hiérarchie à se faire aider par une psychiatre, à consulter et à être suivi, et que ça l'a soutenu pour traverser un moment de crise qui était contemporain, d'événements douloureux pour lui au niveau du testament de son père, enfin au niveau de l'héritage, et qu'il y a eu une mutation à ce moment-là. moment-là dans son économie psychique qui fait que il n'a plus eu le besoin de violer ou de tuer par la suite. Et donc, quand on l'a vu récemment, l'image de son passage à l'émission de Nagui, ça faisait quand même 20 ans, une vingtaine d'années que il ne sévissait plus.
C'est ça qui est dingue, c'est que le mec il va faire un jeu à la télé devant des millions de téléspectateurs. C'est assez dingue quand ces images ressortent, c'est assez glaçant quand même, Élie.
Oui, c'est très glaçant. Après, dans le documentaire, on n'avait pas encore ces images-là. On avait déjà des images glaçantes, notamment de voir son portrait, tout simplement, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme quand il est habillé en gendarme, en garde républicain. C'est aussi glaçant de se dire qu'à l'époque où il a sévi vraiment, il était dans la garde rapprochée de présidents, de premiers ministres japonais qui vont voir Paris. De Mitterrand, on pourrait imaginer qu'il descendait les Champs-Élysées avec le président de la République et lui le matin qui était en train de chasser, puisque c'est vraiment ça qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il se baladait dans les rues pour essayer de trouver l'espace-temps où il allait pouvoir sévir. Donc ça aussi c'est très glaçant. Après, des années plus tard, c'est en effet glaçant et ça rajoute, on va dire, cette idée qu'il était Dr Jekyll et Mr Hyde réellement.
C'est assez dingue, insoupçonnable, ça porte bien son nom. On va écouter la bande-annonce et puis on revient juste après avec vous, à tout de suite.
Revenons à présent sur l'épilogue de l'une des plus grandes affaires criminelles de ces 30 dernières années, celle du tueur en série, dit le Grêlé.
L'affaire du Grêlé est unique par son ampleur et sa noirceur.
À l'une ce soir, l'épilogue de 35 ans d'énigmes autour d'un tueur en série jusqu'à aujourd'hui introuvable.
Je veux répondre à cette énigme. Qu'est-ce qui pousse certains hommes à commettre des actes aussi terribles?
Allez, nous sommes en train de parler justement d'Insoupçonnable qui sera diffusé cette semaine sur France 2, une série documentaire glaçante et à la fois éclairante. Et merci Daniel en tout cas d'avoir apporté cet éclairage aussi, je pense nécessaire à la compréhension du propos d'Eli.
Pour moi, ça a été un exercice passionnant. D'abord, une expérience que je n'imaginais pas d'être dans une œuvre collective comme ça. Et ensuite, de pouvoir m'adresser et défendre des idées à un public beaucoup plus large que celui auquel j'ai l'habitude. Donc, expliquer cet incroyable mécanisme du clivage, Dr Jekyll et Mr Hyde, à partir de Freud ou à partir de quelques successeurs, ça a été pour moi intellectuellement très intéressant. La dimension de méditation sur le mal m'est apparu quand même de bien meilleure qualité que ce qu'on a l'habitude malheureusement de voir dans les multiples séries télévisées.
Élie, moi ce qui m'a frappé c'est face caméra, toutes les personnes, toutes ces femmes notamment qui ont vraiment témoigné. Quand on est réalisateur en face de ces femmes qui ont vécu un traumatisme dont elles ne guériront jamais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ressentir, comment on le vit, comment on prend tout ça quand on est réalisateur? Parce qu'il faut prendre de la distance automatiquement.
Écoutez, moi j'ai pris plutôt de la distance, mais j'ai décidé de me confronter à ça, de les écouter évidemment avec une grande attention, de les filmer avec le plus d'égards mais le plus de profondeur possible. Et en même temps, à un moment donné, j'ai osé poser des questions derrière Patricia Touranchot, mais et aussi affronter cette histoire avec elle, parce que en ayant décidé pour elle de témoigner, à un moment donné, je pensais que c'était aussi le lieu. Elle pouvait peut-être pas guérir, mais en tout cas que ça allait être un moyen aussi de traverser et peut-être de penser un peu les plaies. C'est ce qui s'est passé, à mon sens. Donc, dans ce processus-là, je pensais que c'était important de les écouter, mais aussi de pouvoir discuter avec elles et parler des détails et de rendre compte vraiment de ce qui s'est passé et comment ce type a agi et les a brutalisés, meurtris.
Vous avez découvert Insoupçonnable, ça débarque cette semaine sur France 2, c'est en 4 parties. C'est un récit à la fois glaçant mais passionnant que vous allez pouvoir découvrir. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller y voir. Et puis il me semble que dès la diffusion des 2 premiers épisodes, il y aura l'intégralité sur France.tv. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez déjà hâte de voir la suite ou de découvrir d'une seule traite cette série documentaire. Merci Élie, merci Daniel et à bientôt.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à L'Épreuve qui sera diffusée mercredi soir à 21h05 sur France 2. On va parler de L'Épreuve avec notamment nos deux autrices, Fanny Chesnel et Noémie de Apparent. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis Hakim Isker, qu'on connaît bien, qu'on a grand plaisir à retrouver, un réalisateur hors pair, c'est ce que disent tous les comédiens, Hakim.
C'est gentil, bonjour, salut.
Ça va bien?
Oui, ça va super bien.
Très joli téléfilm sur le parcours d'une jeune fille, de Ambre, qui étudie le droit, encouragée par ses parents, évidemment, qui la rêvent d'une carrière longue comme le bras. Tout va être perturbé par l'arrivée d'un bébé, elle va décider de tout claquer, et de la vie de ses parents, bah, évidemment, ça va pas se passer comme prévu, elle va décider de s'émanciper en quelque sorte, et d'essayer de voler de ses propres ailes, avec un parcours... des fois compliqué, joyeux à la fois. C'est un téléfilm très très humain, j'ai trouvé en tout cas.
Bah, tu résumes bien le projet du téléfilm.
C'est déjà bien, ça veut dire que je l'ai regardé.
Voilà, ça veut dire que tu l'as vu. J'adore ce mot-là de parler d'humain quand on parle de ce film, parce que c'est les choses qui m'ont fait hisser les poils quand j'ai lu ce scénario. C'est-à-dire que c'est formidable de venir traiter de ce monde spécial des éboueurs, mais le point de vue de Noémie et Fanny était un point de vue de cœur, et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et j'aime bien aussi ce que tu dis quand tu parles de parcours parfois plus rugueux, parfois plus joyeux, et c'est la vie quoi, la vraie vie.
Oui, parce qu'il y a quand même quelques points de comédie, et puis à la fois on a envie de suivre Ambre dans cette quête de liberté en quelque sorte. C'est vraiment une jeune fille qui prend son envol. Vous l'avez écrit à quatre mains pour le coup, toutes les deux. C'est ce que vous avez voulu, j'imagine, en Ambre. Est-ce que Francky a rempli parfaitement son rôle?
Complètement, on est ravis de la manière dont Francky s'est emparé du personnage. Elle avance, c'est une fonceuse, elle avance en ligne droite malgré tous les obstacles et malgré les circonvolutions de la vie. C'est vraiment un personnage qui nous a été inspiré par une éboueur qui existe, vraiment, qui s'appelle Aïcha, qu'on a rencontrée, et qui est une figure extrêmement... solaire, une fille très combative et extrêmement émouvante, et on voulait lui rendre hommage à travers cette fiction, et c'est vrai que Francky, ouais, répond complètement à tout ce qu'on pouvait espérer d'une comédienne interprète en Ambre.
Justement, le monde des éboueurs, on est plutôt dans un monde d'hommes là pour le coup, et j'ai trouvé très intelligent en tout cas de parachuter comme ça cette jeune fille qui va aller presque par dépit, parce qu'il faut bien qu'elle gagne de l'argent et elle veut prouver à ses parents qu'elle est capable de se débrouiller toute seule, de la parachuter dans ce monde là. J'ai trouvé ça très intelligent en tout cas.
Bah, c'est un angle qui est venu un peu en cours de route de par l'enquête déjà qu'avait menée Fanny sur le terrain, et s'apercevant que la directrice de cette brigade particulière des éboueurs, la fonctionnelle, était une femme, et que en plus cette brigade qui n'existe qu'à Paris et qui commençait à y avoir des jeunes éboueuses. Et en fait, quand on a eu envie de resserrer l'histoire autour d'un personnage fort, enfin, c'était évident que ce soit autour de cette jeune femme et de cet angle un peu féminin, féministe, avec toutes les problématiques que ça porte.
Plein de sujets de société évoqués finalement, hein, dans ce il y a évidemment le fait que ça soit une jeune maman aussi, toutes les difficultés que ça peut provoquer. Il y a tout plein de personnages extraordinaires qui gravitent autour d'elle, du coup Clémentine Sélarié qui fait une belle partition en tant que directrice de ces éboueurs. Il y a aussi bien sûr Bernard Campan, Zachary Chasserio, Moussa Sila, Chad Chenouga qui joue son papa, Anne Suarez qui va nous rejoindre dans un instant aussi. Tu t'es très très bien entouré, mon cher Hakim Dian.
C'est un beau casting, c'est un très beau casting. Pour être très franc, et là j'envoie une fleur au scénariste, c'est que aucun acteur n'a refusé le film ou s'est positionné dans un questionnement. Ils ont tous voulu. Bernard Campan le premier, et pour parler aussi de Clémentine Sélarié, je l'ai rencontré, et leur discours était direct, je veux faire ce film.
C'est bon signe.
C'est souvent un très bon signe en termes de qualité artistique, mais il y a, comme tu dis, beaucoup de sujets qui sont traités dans le film, et chacun des personnages a sa partition. Clémentine, son personnage, ne dit pas les choses franchement, ne les dit pas directement, et on comprend toute sa position, et il y a une intelligence de l'écriture, et puis aussi une originalité, parce que moi, je sais pas les filles, mais c'est pas peu de fierté que d'être... un petit peu les premiers à parler de ce sujet-là et de la fonctionnelle, et de les mettre à l'écran en prime time. Je trouve ça magnifique, quoi.
Exactement.
J'ajoute que c'est une galerie de personnages auxquels je crois on s'attache, en tout cas c'est en ce sens qu'on a essayé d'écrire, mais parce qu'il nous inspirait à travers le travail d'enquête qu'on a fait sur le terrain, et aussi parce qu'initialement c'est un projet qui était envisagé comme une série. Moi au début je l'ai conçu comme une série, Noémie m'a rejointe sur ce projet, ça devait être une série. Finalement on est ravis parce que c'est une œuvre à part entière qui existe en 90 minutes en tant qu'unitaire.
Qui pourrait déboucher sur un 2 parce que c'est quand même une fin ouverte.
Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et effectivement, je pense qu'on sent que les personnages en ont entre guillemets un peu sous le pied et qu'on a, nous en tout cas, beaucoup de matière narrative qu'on a construite, élaborée autour de tous ces personnages. Et c'est vrai qu'on était presque frustrés parfois de ne pas pouvoir donner toute la dimension à cette arène parce que c'est un milieu extraordinaire et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Effectivement, il y a beaucoup à raconter. Donc ça existe hein, vraiment dans ce format-là et c'est une œuvre à part entière. Mais c'est vrai que je pense que ça explique un peu que les personnages secondaires aient leur vie propre.
On va recevoir dans un instant justement Anne Suarez et Francky Wallage qui vont nous rejoindre à l'épreuve. C'est mercredi à 21h05 sur France 2. On va écouter un petit extrait et on revient juste après avec les comédiennes. Merci beaucoup Noémie, merci Fanny, merci Hakim. Et à tout de suite pour la suite de notre spécial à l'épreuve.
Oh, oh, oh. Pardon. Tu veux quoi là? Qu'on t'apporte l'apéritif de bienvenue ou quoi? Ça va, on peut parler, oui? Déjà que t'arrives en retard.
Je suis désolée, en fait, j'étais pas en retard, c'est juste que Madame Desailly, elle me faisait faire le tour
oui,
des locaux.
Oui, non, mais ici, le chef d'équipe, c'est moi qui donne les ordres, ok? Mais bon, alors, si t'as envie de faire un petit tour du propriétaire, te gêne pas, vas-y, alors explique-nous, c'est quoi ça?
Ça, c'est un DTQD, c'est pour tout ce qui est des produits toxiques.
Ouais, donc ça, là?
Ça, c'est un chargeur Caterpillar, et là-bas, c'est une saleuse ou alors une déneigeuse, ça dépend comment vous préférez l'appeler, je sais pas.
Ok, ouais, pour la pratique, c'est autre chose. Hein. Lui, là, s'appelle Gros Jules. Et là-bas, c'est Gégène, hein. Alors, désolé, il n'y a pas de nom de fille ici. Ici, tous les moteurs des camions que tu vois, ils marchent à l'adrénaline. Il n'y a jamais de routine. Il faut réagir au quart de tour, il faut être prêt, ok? Nounours, avant, il était légionnaire. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas froid aux pieds. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois?
Oui, je crois.
Ouais.
Allez, on continue à parler de À l'épreuve. C'est notre coup de cœur télé cette semaine avec Anne Suarez et Francky Wallage qui sont avec nous. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui joue mère et fille dans ce film. On a planté un peu le décor avec Hakim, Noémie. On y raconte l'histoire de Ambre qui étudie le droit. Ses parents la rêvent avocate. Mais contre toute attente, il va y avoir un bébé qui va arriver et elle va décider de claquer la porte de la fac et de prendre son indépendance, non pas sans heurts, avec ses parents, dont la maman évidemment, que joue Anne. Difficile de voir sa fille s'émanciper.
Difficile de voir sa fille s'émanciper, surtout quand les conditions sont fragiles et qu'il y a beaucoup d'inquiétude, toute l'inquiétude d'une maman pour savoir comment sa fille va faire avec en plus ce nouvel enfant. C'est l'émancipation, mais c'est beaucoup toutes les inquiétudes qui précèdent l'émancipation justement, qui agitent cette mère.
Oui, comme tout parent, parce qu'il voit sa fille partir comme ça à l'aventure, qui va essayer de se loger à droite à gauche et qui va surtout trouver refuge dans un métier, celui des boueurs. Parce que c'est aussi ça que ça raconte le film, c'est une jeune fille qui arrive dans un métier d'homme en quelque sorte.
Oui, et puis il y a une réplique qui m'est revenue là à l'instant dans le film que Ambre dit, où elle dit « ce n'est pas ce que tu crois » quand elle parle de ce métier, c'est bien mieux que ce que tu crois, je crois ce qu'elle dit. Et c'est le cas, en tout cas j'espère que c'est ce que les gens se diront quand ils verront le film et quand ils découvriront ce métier.
J'ai été bouleversée quelque part par cette jeune fille qui va contre vents et marées, qui croit qu'il y a ses certitudes et qui se bat justement pour ce qu'elle croit, ce qu'elle a envie, et cette espèce de liberté quelque part qu'incarne Ambre là.
Oui, en fait, à la fois, elle est très naïve et d'un côté immature parce qu'elle est jeune et qu'elle se retrouve avec un enfant et elle découvre la vie. Et en même temps, elle a un instinct un peu animal et elle fonce. Et finalement, même si elle se trompe, elle fait du mieux qu'elle peut. Et je me dis qu'en tout cas, je souhaite à Ambre de garder cette espèce de sauvagerie et d'instinct, de l'écouter et de le suivre toute sa vie.
Alors elle va mentir un petit peu hein, sur effectivement le boulot qu'elle trouve dans un premier temps, à l'ami qui l'héberge, à ses parents, tout le monde va être un peu en dehors de tout ça, jusqu'au moment où est-ce que le poteau rose sera dévoilé, c'est ce qu'on verra. En tout cas, comment ça va se découvrir au fur et à mesure du film. Qu'est-ce qui t'a plu en premier, Francky, justement, dans le scénario, quand t'as lu le scénario, quand t'as vu un peu cette histoire?
En fait, j'ai adoré le personnage de Ambre et je l'ai encore plus adoré quand j'ai rencontré Hakim et Isker, le réalisateur, et qu'on a pu en discuter et que j'ai vu la liberté qu'il allait m'offrir dans la manière d'incarner ce personnage. Je voulais surtout pas que ce soit dans le pathos, je voulais pas qu'on ait de la peine pour elle, je voulais qu'elle ait en fait un côté inconscient et en même temps qui fonce, et ce côté j'avance, je fonce, je fais, j'apprends en faisant, c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis en plus c'était un rôle très éloigné de ce que je suis ou de ce que j'avais l'habitude de jouer, et c'était un rôle principal, et voilà, y a un tas de choses qui m'ont donné envie d'y être.
Tu m'aimes de main de maître, en tout cas, vous allez voir, c'est vraiment très très chouette comme histoire. Anne, ses parents pourtant, on a envie de les aimer. Et c'est ça que j'ai trouvé dans cette force de film, c'est qu'elle claque la porte, soit, pour se libérer, mais il n'y avait pas d'emprise, il n'y avait pas de drame, c'était pas une jeune fille battue, c'était pas... Voilà, mais tout simplement des parents un peu désabusés par les décisions de leur fille. Et à la fois, on s'y attache à ses parents. C'est aussi ça la force du film.
Ben, c'est la force du film, c'est la force de l'écriture et vraiment du regard d'Hakim Isker qui a vraiment cherché toujours à complexifier toutes les personnalités comme ce qu'on trouve dans la vie. Les gens sont pas tous d'une pièce et là ce qui était vraiment beau dans ces personnages et dans tous les personnages moi je trouve dans le film c'est que c'est tous des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent mal comme souvent on fait pas toujours bien mais ils essayent de faire vraiment du mieux tout le temps du mieux ils pensent faire bien les choses et donc une espèce de combat comme ça pour être digne pour être quelqu'un qui assure les choses qui prend ses responsabilités et même si parfois on est à côté de la plaque quoi.
Est-ce qu'il y a une scène particulière que vous retiendrez, Francky?
Je vais pas spoiler, mais il y a une scène finale dans le film où je suis justement avec mes parents, qu'aujourd'hui je trouve vraiment belle et qui me touche à chaque fois que je vois le film, mais qui quand même était déjà très intense émotionnellement au tournage. Et Anne m'a beaucoup donné, j'en profite parce qu'elle est là avec moi, elle le sait, mais enfin, vous savez, dans le cinéma, forcément, il y a des champs, il y a des contre-champs, et quand la caméra était pas forcément sur elle, et que c'était à mon tour de donner l'émotion, elle me donnait tellement en face dans cette scène que je n'avais strictement rien à faire à part juste accueillir ce qu'elle me donnait et ça a été, pour moi ça fait partie d'un de mes grands souvenirs du tournage. En fait c'est une scène très triste mais qui était tellement bonne et agréable à jouer.
Moi je sais mais je dirai rien. Anne?
C'est la même scène et pour les mêmes raisons. Enfin, c'était une grande joie pour moi de rencontrer Francky sur ce tournage, de travailler avec elle, de jouer sa mère. Et ouais, c'était, je sais pas, très, très épidermique et très riche en émotions. Effectivement, cette dernière scène qui est un aboutissement de pas mal de choses, c'était très puissant à partager ensemble, ouais.
Avec Chad Chenouga aussi qui joue ton papa, Francky. Tu vas croiser plein de beaux mondes pendant cette épopée. Bernard Campan, Moussa Sylla. Il y a vraiment un très très joli casting en plus aussi. Zachary Chassério, Clémentine Sénarié qui fait une participation d'anthologie. Quel souvenir en tout cas vous en ressortirez toutes les deux? Je pense du métier d'éboueur que tu as peut-être découvert justement en discutant avec des gens qui font ce métier par exemple très difficile des fois.
En fait, c'est un souvenir d'équipe à toute épreuve, c'est qu'à te le dire, mais je veux dire que ce soit autant tout l'entourage de la fonctionnelle, toute l'équipe, parce que ils ont un peu une atmosphère de, moi, j'ai l'impression que c'était ce que j'avais vu dans les documentaires sur les équipes de foot. Donc, il y a un côté où, dans les hauts, ils sont ensemble, dans les bas, ils sont ensemble, ils se passent la balle les uns entre les autres, mais de manière très soudée. Donc, il y avait vraiment un esprit d'équipe et aussi un esprit d'équipe avec les comédiens. On était vraiment dans une entraide à chacun se nourrir et beaucoup se donner. C'est-à-dire qu'à la fois Zach et Moussa apportaient cette joie sur le plateau et en même temps les scènes très très intenses avec Anne étaient extraordinaires. Enfin, vraiment, c'est tout le monde se nourrissait et l'équipe technique était géniale, bienveillante, patiente et Hakim qui gérait ça avec brio.
De main de maître. Anne?
Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer en vrai toute la famille des éboueurs. Ça, j'en ai pris conscience en voyant le film, en fait. Mais je dirais oui, quelque chose de très humain, quoi. Et donc aussi bien au niveau des acteurs que de l'équipe technique, d'Hakim, que donc quelque chose qui se fait avec beaucoup d'écoute et d'intelligence, en fait, de sensibilité. C'est très agréable.
En tout cas, il y a plein de beaux projets qui arrivent pour vous aussi à Burnout. Bientôt sur Netflix pour toi, Francky. Anne, des projets aussi?
Moi, je suis en écriture personnellement.
Voilà. Ça va arriver bientôt, ce sera l'occasion de revenir en parler aussi. Ça s'appelle À l'épreuve, c'est mercredi à 21h05 sur France 2. On ne le rate pas. Merci beaucoup Anne, merci Francky d'avoir été avec nous et à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Brocéliande qui continue ce soir sur TF1 avec le 3e et 4e épisode inédit. Brigitte Aubry est notre invitée aujourd'hui pour en parler. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Brigitte, tu incarnes la maman de Laura, cette jeune fille disparue depuis de nombreuses années. On a découvert évidemment à la fin de l'épisode 2 la semaine dernière un énorme cliff avec la découverte d'ossements à la fin du 2e épisode. On est dans un suspense totalement insoutenable. Déjà, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Raconte-nous.
Qu'est-ce qui m'a plu? Je peux dire la vérité.
Ouais, vas-y.
Je vais uniquement dire la vérité. Déjà, c'est Bruno Garcia qui réalise. J'ai déjà tourné 4 fois avec lui, donc c'était mon 5e projet avec lui. J'adore ce réalisateur. Je le dis parce que c'est pas toujours évident de retravailler avec quelqu'un sur des rôles complètement différents. Là, c'était un rôle encore assez différent. Le projet m'a plu parce que c'est une intrigue qui se passe
dans la forêt de Brocéliande ou juste à côté. Donc c'est très mystérieux, c'est fantasmagorique en même temps. Et en même temps, ça fait appel à des émotions complètement naturelles. Et pour une mère, pour la mère que je suis, qui réveille en moi des émotions fortes. Donc j'ai eu envie, non seulement à cause de Bruno, ou grâce à Bruno Garcia et à la prod qui est absolument adorable, et découvrir Nolwenn Leroy, actrice, c'était un challenge qu'elle a, mais complètement réussi. Je suis complètement fan de cette femme.
Elle est bluffante, hein.
Elle est bluffante, elle est magnifique, elle est d'une gentillesse, d'une simplicité. Ma première scène de tournage, c'était aussi sa première scène du tournage de la série, le premier jour pour toutes les deux.
Ah oui, c'est quand elle revient, en fait, et qu'il y a cette première confrontation entre vous et que tu vois pas d'un bon œil, évidemment, son retour, puisque toi, tu penses qu'elle est responsable de la mort de ta fille. Ou de sa disparition, du moins, en tout cas.
Enfin, c'est pas cette scène-là qu'on a tournée en premier, mais c'était un challenge pour nous deux de se retrouver en face. C'était magnifique, voilà. Donc, plusieurs raisons d'aimer cette série. La série, l'écriture.
Il y a tous les ingrédients d'une saga d'été aussi, hein, mine de rien, dans cette fiction.
Mais c'est complètement étonnant parce qu'effectivement, ça mélange le drame, le fantastique. Oui, c'est une saga, complètement. Elle aurait pu durer encore. Mais bon, on a résolu... au sixième épisode, tous les problèmes sont résolus, évidemment.
Oui, c'est bouclé, hein. C'est ce qu'on disait justement la semaine dernière avec Bruno et Juliette, productrice et réalisateur, c'est qu'on est vraiment sur une histoire bouclée. Donc on aura toutes les réponses aux questions, évidemment, qui est devenue la jeune étudiante aussi, qui est disparue dans les mêmes circonstances. On aura vraiment toutes les réponses aux questions et Dieu sait qu'il va y en avoir du rebondissement tout au long. Nous, en tant que spectateurs, j'imagine que toi, la lecture du scénario, c'est pareil, tu avais envie d'avaler ce scénario d'un seul coup, comme ça, de voir la suite.
Et moi, j'ai été complètement surprise aussi, au fur et à mesure que je lisais les épisodes, de voir les résolutions des histoires et des énigmes et des personnages, quoi. Donc, on s'attend absolument pas à ce qui arrive. Ça, c'est génial.
Donc, j'ai déjà hâte.
Donc, je ne dirai rien, mais on s'y attend pas du tout, et ça, c'est extraordinaire. Et toutes les actrices et tous les acteurs de cette série, franchement, ils m'ont tous bluffé, quoi. Et au tournage, et bien évidemment, j'ai vu la série, c'est formidable.
Ah, le casting est assez dingue, effectivement, autour de Nolwenn, hein. On a cité tout le monde la semaine dernière, mais c'est vrai que le casting est assez fou, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir tous les ingrédients de la saga d'été, et de découvrir aussi Nolwenn, justement, en tant que comédienne, et dans un autre registre que celui où on l'attend, évidemment, en tant que chanteuse, et c'est ça qui est vraiment chouette. Ton personnage, au départ, voit d'un très mauvais œil, hein. C'est ce qu'on dit, évidemment, son retour. Et au fur et à mesure, on a vu dans les deux premiers épisodes, déjà dans le deuxième épisode, elle fait un peu son mea culpa auprès de Fanny Le Goff parce qu'elle comprend que finalement, Fanny n'est peut-être pas responsable de tout ça et qu'elle est peut-être, elle aussi, plus ou moins une victime.
Oui, enfin, dans le deuxième aussi, on n'est pas encore sûr que ce soit sa fille. On n'est pas encore sûr que ce soit Laura. Donc, il y a une petite lueur d'espoir chez cette maman. Et face à Nolwenn, bien évidemment, il n'y a pas d'excuse, mais évidemment, la colère s'atténue, franchement. Oui.
La relation change, on voit au fur et à mesure. Déjà, dans les deux premiers, ça va être encore le cas, évidemment. J'imagine ce soir, on va voir encore une évolution dans ce troisième et quatrième épisode. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué un peu plus?
La première avec Nolwenn, en fait, c'est quand j'apprends que ma fille est peut-être pas morte. Et c'est là où on se retrouve toutes les deux devant la porte. Et c'est une jolie scène d'émotion pour moi. Et j'avais le regard de Nolwenn en face de moi qui échangeait vraiment avec moi, qui jouait vraiment avec moi. Et ça, c'était magnifique. Et cette scène-là, toutes les deux, on a eu un plaisir fou à la tournée. Et c'était celle-là, notre première scène.
C'était votre première scène, une scène de l'épisode 2 qu'on a vue la semaine dernière, effectivement. Alors, on va pas dire évidemment quoi que ce soit sur les nombreux rebondissements qui nous attendent ce soir, mais vous allez être servis, je vous le promets. Brigitte, on va te voir bientôt aussi dans La Maman du Bourreau. Ça, pareil, un téléfilm extraordinaire sur France 2 avec Marie-Christine Barrault et Daniel Stocker de la Comédie Française. Franchement, c'est hallucinant.
Moi, j'avais lu le roman avant. L'adaptation est magnifique. Marie-Christine Barrault est remarquable. Laurent Stocker, enfin bon, Gabriel Aguillon, c'était un vrai bonheur de tourner avec lui. Ouais, j'ai une jolie rentrée.
J'aurai le plaisir à te recevoir bientôt, du coup, de nouveau.
Avec plaisir et avec joie. C'est toujours un plaisir, moi aussi, de vous retrouver de festival en festival.
Exactement. En attendant, Brocéliande, ce soir, c'est la suite. Brigitte, on va suivre évidemment ça de très très près pour voir les nouveaux rebondissements qui nous attendent dans cet épisode 3 et 4. Merci à toi.
Merci à vous, à très bientôt.
Je me suis réveillée dans la forêt il y a 20 ans. à vivre avec le doute et pas savoir si c'est moi qui ai fait du mal à Laura. J'étais quand même sa meilleure amie.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me souviens plus de rien.
Tout le monde réclame toujours un coupable.
Si Laura est toujours en vie, elle devait avoir une bonne raison de se cacher.
Je pense que ça vous arrange d'avoir oublié.
Pourquoi vous continuez à m'accuser?
J'ai l'impression que ma mère me cache des choses.
Parfois on ment pour protéger ce qu'on aime.
La vérité, elle est forcément en moi quelque part.
Brocéliande, la saga de la rentrée, prochainement sur TF1.
Et dans un instant, ne manquez pas notre coup de cœur cinéma consacré à Vive Mourir Renaître. Gaël Morel, Victor Belmondo, Théo Christine et Lou Lampros nous rejoignent. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Chonville sur la moto, tout le monde parle de Rosa. J'ai reçu 2-3 photos où elle dansait la bossa. Elle sourit, elle tourne le dos, personne n'a eu dans ses mains, mais on l'a tous dans la peau. Aïe mama, tu refous tout le monde. Aïe mama, je serai ton nom. Aïe mama, veux-tu prendre mon nom? Aïe mama,
j'aimerais te dire.
Aïe mama, tu refous tout le monde. Aïe mama, je serai ton nom.
Aïe mama,
veux-tu prendre mon nom?
Aïe mama,
j'aimerais te dire rose.
Toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Vivre, Mourir, Renaître de Gaël Morel. Un magnifique film qu'on a vu il y a maintenant quelques semaines au Festival d'Angoulême, qui a été diffusé en avant-première. Et on a la chance d'avoir Gaël Morel, déjà le réalisateur, pour commencer cette spéciale avec nous. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et puis merci aussi pour ce bon moment. On a vécu un moment assez incroyable avec ce triangle amoureux dans les années 90 entre une fille hétéro, un garçon bi et un autre garçon gay jusqu'à l'arrivée du sida. C'est effectivement dans cette période-là l'arrivée de cette maladie qui a sombré un peu tous les jeunes dans une psychose à l'époque, qui est encore terriblement d'actualité bien sûr aussi. Comment est venue l'idée, Gaël, déjà de faire le film sur ce sujet-là ?
C'est un projet qui était là depuis quand même assez longtemps et que j'avais d'abord, dans un premier temps, décliné sous forme de documentaire, où j'étais intéressé par l'idée des gens qui avaient été touchés par cette maladie, qui pensaient mourir et qui finalement avaient survécu. Donc j'ai commencé à faire un dossier d'enquête, comme ça à rencontrer les gens. Et le problème, c'est que je rencontrais des gens qui avaient entre 50 et 70 ans et qui me parlaient de leur maladie, mais finalement, vu avec la trithérapie, tout ça, on avait affaire à des gens âgés, mûrs, matures, qui finalement parlait d'une maladie chronique, quoi. Puis je me suis dit, pour que on saisisse ce que ça a été, il y a que la fiction qui peut rendre compte. Le documentaire, il est en dessous de la fiction. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'écrive comme ça. Le problème, c'est que c'était un sujet où je devais me confronter au corps médical. J'avais une vraie phobie du corps médical. J'avais jamais été malade. J'avais jamais été à l'hôpital de ma vie. Et je me disais, si je fais ça, ça va me porter malheur. Donc, j'ai éteint ce projet, j'ai fait d'autres choses. Et puis moi, il se trouve que j'ai été touché par une maladie qui touche au sang, qui s'appelle un lymphome et qui est une maladie mortelle, hein, qui est une maladie oncologique. Et durant les traitements, où on ne sait pas si on va vivre, si on va mourir, on ne sait pas ce qui va advenir de nous, j'ai écrit comme ça une trentaine de pages de fiction sur ce projet, sans savoir si je pourrais le réaliser, puisque je savais pas comment ça allait se passer, quoi. Et je me disais, en même temps que j'écrivais, je disais, c'est quand même de tous mes films, c'est peut-être le seul que je vais regretter de ne pas faire. Et quand j'étais tiré d'affaire, j'ai trouvé des producteurs qui sont Michel Alberstadt et Laurent Pétain, et qui m'ont accompagné tout de suite. Tout a été très vite et on a pu faire le film. Et ça a été comme pour moi une renaissance, voilà. Donc j'avais traversé les trois stades de la vie, la mort et la renaissance.
C'est ça qui est chouette dans le film, c'est de terminer par renaître. Et c'est un peu un film en trois actes, où on célèbre la vie, effectivement, où on côtoie la mort, et puis on renaît. C'est vraiment un peu un film en trois actes, et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on termine quand même par une note d'espoir, d'optimisme, vis-à-vis de certains de nos héros, en tout cas.
En fait, mon film commence là où se terminaient la plupart des films qui ont abordé le sida. Moi, mon film commence en 90-92, c'est-à-dire là où se terminent 120 battements, Les Nuits Fauves, Philadelphia, Dallas Buyers Club. Donc, je voulais raconter qu'est-ce qui se passe après, quoi. Comment, quand on nous a condamnés à mourir, quand on s'est préparé à mourir, on allait se réadapter à la vie qui vient et qui va. Et en gros, comment on fait le deuil du deuil ? J'ai pas meilleure expression pour dire la situation. Et donc voilà, je me suis attaché à raconter ça dans mon film. Je tiens à préciser quand même qu'on n'est pas du tout dans un film documenté sur le sida. Le sida, disons, est un catalyseur, un excitant sur les rapports amoureux entre trois personnages. Pour moi, disons que je parle de mon film comme d'une grande histoire d'amour à hétérosexuel, bisexuel et homosexuel. En tout cas, c'était mon désir de faire un film où le sentiment amoureux serait au cœur de tout et serait plus fort que la mort.
On y suit l'histoire d'un couple avec un petit garçon qui s'installe dans un immeuble, et puis c'est Théo Christine, hein, qui incarne, rappelez-moi le nom du personnage,
le rôle de Samy.
Samy, voilà, Samy et Emma qui s'installent et qui vont donc faire connaissance, enfin du moins Samy va faire connaissance de son voisin incarné par Victor Belmondo, qui est un photographe connu et reconnu et qui fait des photos absolument superbes, et puis il va se lier une relation particulière en tout cas entre ces deux hommes, et ça va devenir effectivement un triangle où il va arriver plein de péripéties, mais on va les suivre sur plus d'une décennie. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va suivre leur destinée sur plus d'une décennie.
Moi, je trouve que le cinéma est toujours magique quand il nous donne, entre le moment où on rentre dans la salle et le moment où on sort, l'idée du temps qui passe. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui est très payant quand on le réussit. Alors bon, après, ce serait aux gens de voir si c'est réussi ou pas. Mais en tout cas, on a tout fait pour que ce le soit. Et c'est vrai que c'est important pour moi que cette histoire d'amour s'inscrive sur au moins une décennie. Ouais. Il y avait comme ça la volonté que le temps qui se passe entre eux soit un temps long.
On va continuer à en parler avec eux, on va accueillir les comédiens justement dans un instant. Vivre, mourir, renaître, le film de Gaël Morel, ça sort mercredi au cinéma, c'est le film de cette fin septembre à ne pas rater. Et on va justement parler des personnages dans un instant également. Merci Gaël.
Bah merci à vous et bon film pour les gens qui auront envie de nous découvrir. Voilà.
J'en suis sûr, en tout cas on va essayer de vous donner envie de le découvrir. On écoute la bande-annonce et on revient juste après, à tout de suite.
Je voulais te demander si je pouvais te photographier un jour.
Pourquoi pas?
C'est le travail du voisin.
C'est pas mal.
C'est vachement bien, tu veux dire.
C'est drôle, tu ressembles pas tellement à tes photos.
Je suis un garçon très sérieux.
Tu le trouves comment, Cyril?
Oui, je sais pas.
Moi, je le trouve beau.
La photo, c'est ta drogue, en fait. Je peux pas t'en passer.
C'est la première fois que j'entends entendre mot sortir de ta bouche.
Je suis pas bavard quand je connais pas.
On se connaît, maman.
Arrête. Je suis sérieux ou pas? Et t'avais l'air malade.
C'est pas écrit sur la gueule des gens.
Voilà la bande-annonce Vivre, mourir, renaître. C'est donc mercredi dans les salles et puis on va donc accueillir les comédiens, enfin surtout comédiennes, pour commencer avec Lou Lamprose qui est avec nous. Bonjour Lou.
Bonjour.
Donc tu joues le rôle de Emma dans le film, ce qu'on disait, qui est au cœur de ce triangle amoureux entre Victor Belmondo et Théo Christine. C'est peut-être, je vais pas dire le personnage plus à plaindre, mais c'est pour moi le plus solaire de tous. C'est celui qui a une résilience à toute épreuve, on a l'impression, en tout cas Emma.
Oui, bah merci beaucoup. Oui, alors oui, c'est sûr que Emma, elle a beaucoup de lumière en elle. Et d'ailleurs, il y avait peut-être même des séquences, des scènes, notamment dans le voyage en Italie qui se trouve au milieu du film, j'en dis pas plus, qui devaient être un tout petit peu plus sombres et qui ont été à nouveau réilluminées en fait et complètement changées du jour au lendemain par le réalisateur Gaël Morel. Et donc c'est un film qui a été vraiment entièrement fait dans la lumière. Après, on a été bien accompagné par une lumière, mais pas qu'une en fait, par deux lumières, on va dire. En fait, du moins pour mon personnage, le personnage de Emma, c'est vrai qu'elle a la lumière qui change un petit peu à la fin du film.
Une coupe de cheveux aussi.
Et une coupe de cheveux en effet, complètement. Mais c'est vrai que il y a en fait, c'est un film sur l'après, d'où le titre Vivre, mourir, renaître. C'est un film sur l'après et sur l'impossibilité aussi de vivre quand on a perdu quelqu'un, ou du moins de désirer vivre. Et je pense que en effet, le personnage d'Emma, bien qu'il soit lumineux,
il a mis à rude épreuve
et on efface un petit peu de sa lumière à un moment donné. Ouais.
Bon, en tout cas, c'est un film qui permet aussi de parler de cette génération qui a vécu l'arrivée du sida à la fois. Et même si c'est la toile de fond, je pense que c'est vraiment plus l'amour qui est au centre de toute cette histoire, quoi. L'amour plus fort que tout, quoi.
Complètement, complètement.
L'amour pour Samy, et puis évidemment c'est l'amour entre Samy et le personnage de Victor. Enfin, tout est lié, enfin ces trois personnages sont liés, avec le petit bien sûr aussi, le petit garçon, qui est au milieu de tout ça, mais c'est ça qui est aussi très beau à la fois.
Complètement. Et en fait, c'est bien de parler aussi de l'enfant, parce qu'en effet, on est un trio et on est un trio amoureux, bien que ce soit un homme au centre et plutôt cet homme-là qui est dans le polyamour et dans la bisexualité et les autres qui vivent deux histoires d'amour différentes. En effet, il y a la place de l'enfant dans le film qui est très importante.
Et ça tombe bien puisque Théo Christine nous rejoint justement.
Bonjour.
Bonjour mon cher Théo, deuxième fois dans notre émission. On est très heureux de te retrouver. Ça va bien ?
Et vous ?
Ça va très très bien avec Lou, et on parlait justement du personnage de Emma, et donc on va parler de celui un petit peu de Samy aussi. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans le projet Théo ?
Tout, hein. Franchement, dès la première lecture du scénario, j'ai été conquis. J'ai été conquis par l'amour qui est présent dans absolument chaque ligne du scénario. J'ai été conquis par la jeunesse qui s'en dégage, par l'envie de vivre et le côté presque militant de s'accepter, de faire les choses comme on les ressent et comme notre cœur nous le préconise.
Comment vous êtes appréhendés un peu tous les deux pour jouer ce trouble en quelque sorte?
On se connaissait un petit peu d'avant. Bah en fait Gaël nous a quand même casté, même si ça n'avait rien à voir avec un casting, c'était juste des cafés et des dîners pour se rencontrer. Plusieurs mois avant en fait, donc de par l'amour qu'on avait tous les trois pour les personnages et pour le projet, je pense que ça a été assez naturel entre nous et qu'on a commencé à vite se voir, à aller dîner ensemble, à faire un peu la fête et à se connaître un peu plus en profondeur.
Créer déjà une connexion
bien sûr, très important, mais ça a été vraiment avec un plaisir immense et beaucoup de joie et beaucoup d'amusement.
Lou, est-ce qu'il y a des scènes que vous appréhendiez un petit peu tous les deux? Parce que même s'il y a quand même quelques scènes d'intimité, il n'y a aucun voyeurisme, c'est pas poussé. C'est ça aussi qui est bien, il y a une grande pudeur dans la réalisation de Gaël, malgré tout.
Je suis très d'accord avec vous. Et en fait, non, il n'y a pas de scène vraiment que personnellement j'appréhendais. Sûrement que ça vient de l'amour pour l'histoire et du désir profond de vouloir la vivre et de la défendre. Mais je pense que surtout, en fait, on réalise en faisant ce genre de rôle qui est haut en couleur et qui traverse des époques et des drames et des joies.
Oui, parce qu'on vous suit sur plus d'une décennie, hein, ce qu'on disait Gaël.
Voilà, exactement. Et je pense qu'en fait, à un moment donné, quand on aime ce métier, quand on aime un film, il n'y a pas d'appréhension. C'est vraiment, on vit intensément. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces métiers et qu'on les aime. Jouer, c'est vivre plus. Donc non, il n'y a pas eu d'appréhension, que du plaisir.
Vivre, mourir, renaître. On continue à en parler d'ici quelques instants. Théo Christine et Lou Lampros, que vous allez pouvoir découvrir au cinéma dès mercredi, vont, j'en suis sûr, vous émerveiller par cette magnifique histoire en même temps réalisée de main de maître par Gaël Morel. Merci Lou, merci Théo.
Merci beaucoup.
À bientôt, bon film.
Vous avez fait un test récemment?
Non, je me fais. J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur, Mathieu.
J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble.
Je
pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie.
T'as les mêmes gestes quand tu le sers contre toi. C'est dur, mais ça va aller.
De toute façon, on a la vie devant nous maintenant.
Allez, on termine en beauté notre spécial Vivre, Mourir, Renaître avec Victor Belmondo qui nous rejoint. On est au rythme de deux fois par an dans l'émission, c'est vachement bien. La dernière fois, c'était Elle et lui, le reste du monde. Et ben là, on te retrouve dans ce super film de Gaël Morel. Tu fais des choix artistiques extraordinaires.
Ah bah ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et ouais, on est sur un bon rythme ensemble. J'espère qu'on va garder ce rythme-là. Et puis c'est gentil, merci. Merci beaucoup.
Écoute, on a passé un moment sur ce film qu'on a pu voir au Festival d'Angoulême il y a maintenant quelques semaines. Et ce rôle est magnifique avec ce triangle amoureux, cette émotion. Et puis ce personnage dont tu peux nous parler un petit peu justement, ce voisin photographe, passionné, passionnant aussi, qui va se retrouver au cœur de ce triangle amoureux avec Samy et Emma, les voisins du dessus.
Ouais, absolument, c'est Cyril qui est donc le voisin de ce couple qui vivent dans cet immeuble avec leur enfant. Lui, il a son studio dans cet immeuble et puis il va tomber amoureux de Samy, donc le mari de ce couple. Il va avoir une histoire d'amour avec lui. Emma, sa femme, va accepter leur amour et donc de là va naître un trio amoureux. Rempli de vie, rempli de jeunesse, rempli de soif de vivre, et tout ça va venir être dynamité par l'arrivée du sida.
Voilà. Exactement, parce que c'est aussi ça la toile de fond de cette histoire. Là, tu viens de nous décrire un peu la partie vive, mais j'ai l'impression, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, à la lecture du scénario, c'est vraiment un film en trois actes.
Bien sûr, c'est clairement trois actes. C'est vivre, mourir, renaître. Et c'est trois actes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a trois personnages. Je pense qu'à chaque acte, son personnage. C'est une structure assez particulière, mais je trouve que ça fonctionne très bien dans le film. Les actes se répondent entre eux. C'est ces trois actes-là, vivre, mourir, renaître, c'est exactement ça. Ouais.
Alors, il y a vraiment des scènes d'émotion très fortes sur ton personnage parce que c'est vraiment l'amour est plus fort que tout, un peu ce film aussi. Et on sent effectivement ton personnage prêt à tout pour justement ce qui va se passer avec l'arrivée de ce sida, mais pas uniquement envers Samy, mais envers Emma, envers ce petit garçon auquel il va s'attacher aussi. Il y a tout plein de choses qui vont se passer autour.
Bien sûr, il y a ce trio amoureux, il y a cet amour qui triomphe toujours, mais il y a aussi l'amour amical, il y a aussi l'amour entre des parents et des enfants. Voilà, c'est un grand film d'amour sur tout ce que l'amour comporte, sur toutes les couches d'amour,
sous toutes les formes.
Sous toutes ses formes. L'amour, c'est pas seulement deux êtres qui s'aiment avec désir, ça peut être plein d'autres choses, et c'est ça que ce film montre aussi.
Il y a une scène qui a été particulièrement difficile pour toi. Est-ce que quand t'as vu les premiers rushs aussi, est-ce que t'as ressenti cette émotion que nous on a pu ressentir en tant que spectateur au montage fini?
J'ai senti l'émotion dès la lecture du scénario. C'est assez rare d'être ému dès qu'on lit. Et dès la lecture, il y avait des réactions émotionnelles, des réactions organiques. C'est un scénario qui était déjà très très émouvant. Je sais pas s'il y a une scène très difficile, mais il y a une scène qui m'a beaucoup ému. C'est la scène des alliances après le mariage. Je me souviens que ce jour-là, j'étais très ému. Et d'ailleurs, toute l'équipe était très émue. Il y avait des membres de l'équipe qui pleuraient ce jour-là.
Oui, parce que ton personnage, à ce moment-là, on va pas dire lequel, mais fait un acte d'amour incroyable.
Voilà, exactement. Il fait un acte d'amour. Et c'est vrai que ce jour-là et cette scène-là était particulièrement émouvante, vraiment.
Et puis il y a évidemment un casting autour de toi, dingue avec Lou et Théo qui était avec nous à l'instant. Mais franchement, tu garderas, j'imagine, un super souvenir de cette aventure.
Cette aventure est très très haute dans mon cœur. Elle m'habitera toute ma vie. Je me souviendrai toujours de ce tournage, de ces rencontres, de cette histoire, de ce personnage. Voilà, c'est en moi et ça bougera pas. Ça a été une aventure formidable et remplie d'émotions, ouais, clairement.
Ce qui t'a plu aussi, la lecture du scénario, j'imagine pour un comédien, c'est chouette de pouvoir jouer un personnage sur plus d'une décennie comme ça aussi, qui traverse les années.
Bien sûr, parce qu'on a énormément de choses à jouer. C'est un personnage qui traverse les années et qui donc traverse les émotions et qui traverse les étapes de la vie. Et donc moi, en tant qu'acteur, ça me fait que me rajouter de nouvelles choses à jouer. Donc c'est juste du plaisir à chaque fois, quoi. C'est génial.
Bon, c'est ça qui est chouette en tout cas. Vive, mourir, renaître, c'est le film à ne pas rater. C'est mercredi dans les salles. Merci Victor d'avoir terminé en beauté cette spéciale avec nous. On embrasse Gaël, Théo et Lou qui étaient avec nous aussi il y a un instant. Et puis on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures.
Bah, très bientôt et merci à vous, c'est toujours un plaisir, vraiment.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous recevrons la chanteuse Stéphane à l'occasion de la sortie de son album La prison des amoureuses malheureuses. On recevra également Dunia Cossins pour l'arrivée de Tom et Lola sur France 3. Notre coup de cœur ciné sera consacré à Drone avec Simon Brisson et Marion Barbeau qui seront nos invités. Et puis Saïda Jawad viendra nous parler du prochain Capitaine Marlowe, ainsi que Diane Dassini qui viendra nous parler de Jennifer dans Plus belle la vie évidemment, mais aussi de Monsieur Parisot.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.